Nous sommes en direct par téléphone avec Aurélien Bélanger. Nous parlons de la théorie de l'information. Merci d'être avec nous, Aurélien Bélanger.
Merci beaucoup, bonsoir.
Bonsoir. Alors, une de vos premières ambitions, votre première ambition peut-être sans doute, a été de prendre le cas français dans votre roman La théorie de l'information et de prendre le cas d'un entrepreneur français. Pourquoi ?
Eh bien...
Pourquoi ce cas français ? D'abord, pourquoi ne
parce
pas
que
dire...
Ça permettait de faire quelque chose... Bon, déjà, ça permettait de m'appuyer sur quelque chose que je connaissais mieux. Et ça me permettait de faire quelque chose de légèrement uchronique, parce que sur les questions d'Internet, sur les questions de réseau, sur les questions de modernité, en gros, dans les années 80, ça aurait été situé au Japon, les années 90 en Chine, aux États-Unis, etc. Et la France est un peu sortie de cette histoire littéraire, et du coup... En racontant une histoire qui se passait en France, je bénéficiais d'un effet d'étrangeté en plus, et ça me permettait. C'était un argument romanesque qui était quasiment gagné d'avance. Si je racontais une histoire en France, ça pouvait sonner vraisemblable, mais ça ajoutait une petite touche d'étrangeté.
Donc ça, dès l'écriture du roman, quand vous rassembliez vos idées, vous aviez déjà, vous sentiez déjà, c'était votre premier postulat, il faut que ça se passe en France, il y a un effet d'étrangeté, c'est vraiment un argument romanesque fort, il y a une sorte d'usage uchronique, ça tout de suite vous l'aviez senti en composant le livre, avant même de l'écrire, quoi, en le composant déjà avec votre masse de documentation.
Bah, pour ne rien vous cacher, l'article que j'attribue à Mycène, qui se trouve dans la dernière partie du roman, je l'ai écrit à peine un mois avant le début de la théorie de l'information. Et c'était un récit, je m'étais assigné aucune contrainte particulière, si ce n'est une contrainte... on va dire débile, mais très forte, je voulais raconter à la Dan Brown, j'ai pas lu Da Vinci Code, hein, mais c'était l'idée que je m'en faisais, je voulais raconter à la Dan Brown les dessous de l'histoire contemporaine avec une intrigue de roman feuilleton que j'aurais dissimulé dans quelque chose de volontairement technocratique. Donc voilà, c'était l'idée, je l'ai abandonné, je ne sais plus pourquoi, et je me suis lancé aussitôt dans la théorie de l'information, et puis j'ai repris cet article fictif et que j'ai inséré dans le roman, où en fait c'était sa place véritable, j'ai l'impression.
Alors, on va continuer, d'accord, on peut prendre votre roman par ce petit bout-là, de la singularité française de Xavier Mycène, ça se trouve au chapitre 29, donc on est vraiment vers la fin de votre roman La théorie de l'information. Un texte, moi, qui m'a particulièrement impressionné, qui fait une quinzaine de pages, qui est dans une typographie un petit peu différente, elle est un petit peu plus petite. Est-ce qu'on a tout ce que vous aviez écrit un mois avant d'écrire La théorie de l'information, ou est-ce que c'est juste un extrait, un passage, ou est-ce qu'on a
Non, c'est la totalité. C'est la totalité très très remaniée, ouais. Très réécrite, parce que l'article en question était beaucoup plus échevelé et je l'avais écrit, c'était un premier jet, et du coup je ne validais plus tout ce que j'avais écrit. Ouais.
Alors. Dans la singularité française de Xavier Mycène donc est un personnage que vous avez inventé, qu'on va apercevoir dans la théorie de l'information.
Oui, c'est l'ami d'enfance du héros du livre. Oui.
Voilà. Dans ce texte, La singularité française, là, on a un descriptif un peu brut, théorique. On est dans de la non-fiction, on n'est pas dans de la fiction. C'est-à-dire que vous nous apprenez des informations sur ce qui s'est passé en France depuis la Seconde Guerre mondiale, liées à la théorie de l'information. Vous aviez cette idée-là de faire quelque chose du coup sans personnage prépondérant. Or, soudain, pour écrire la théorie de l'information, vous dites « je vais suivre un personnage de son enfance jusqu'à sa mort ». Et premier postulat, donc un récit linéaire d'une vie. Et deuxième postulat, vous vous emparez d'un personnage qui existe, qui est Xavier Niel. Vous ne le cachez pas que voilà, y a plus que des grosses ressemblances avec la vie de Xavier Niel. La fin, bien entendu, change complètement. On en parlera tout à l'heure. Voilà, deux postulats. Un personnage qu'on suit du début jusqu'à la fin et vous vous emparez d'un entrepreneur qui existe vraiment, qui est Xavier Niel.
Oui, alors il y a un côté un peu... comment dire, usine du roman, tout le travail, c'est d'aboutir à l'objet fini le plus beau possible, mais, Mais le début, c'est vraiment un enchevêtrement d'intentions diverses, de trucs divers, etc. Donc, objectivement, je ne sais pas trop. Enfin, je ne pourrais pas justifier a posteriori d'avoir fait ce choix, si ce n'est que j'aime beaucoup les romans de formation. Donc, ça me semblait important de partir de l'enfance du personnage et d'avoir et d'insister beaucoup, beaucoup sur quelques phénomènes qui avaient affecté son enfance. Et ensuite, bah, m'appuyer sur une vie réelle, ça me donnait un petit peu je sais pas, l'échelle graduée, une sorte de chronologie comme ça. J'ai travaillé avec une chronologie réelle en face de mon bureau, et ça me permettait, je sais pas, ça m'a servi, au moins au début, ça m'a servi de moteur romanesque. Parfois, j'étais embêté parce que je dis, mais pourquoi est-ce que je m'embarque dans une telle histoire? Autant j'ai aucun problème avec l'idée de mélanger des personnages réels et des personnages fictifs. Mais ce postulat de départ de prendre un personnage réel pour en faire un personnage fictif, voilà, je pense que je suis en toute honnêteté à peu près incapable d'expliquer pourquoi je l'ai fait, si ce n'est que ça m'a aidé au début, et puis voilà, après c'est parti.
Parce qu'il y a une forme de liberté dans votre fiction, et toute la fin est une grande mise de liberté. Parce que là, à la fin, vous quittez le champ romanesque, vous allez vers de la science-fiction, carrément. Vous faites vivre à ce héros, à votre personnage, des actions qui n'existent pas. Et vous tirez votre roman vraiment vers la science-fiction, et vous faites un usage de la science-fiction à toute la fin de votre livre, là, par contre. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez décidé, c'est que toute la fin de votre livre, les 50 dernières pages, vous partez vers quelque chose de science-fictionnel.
Mais c'est une science-fiction d'un type très strict, qui est une science-fiction qui ne s'appuie que sur des données scientifiques réelles. D'ailleurs, je cite un article sur le codage d'informations dans de l'ADN, qui est un article réel. Donc effectivement, c'est l'origine de la science-fiction, c'est partir de la science et d'extrapoler. Mais disons que je n'extrapole qu'en tant qu'ingénieur, les théories scientifiques préexistent. Et moi, j'imagine quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent, qui leur donnerait un aspect différent. Donc en fait, plus que de science-fiction, j'ai l'impression, mais alors c'est vraiment infinitésimal et très 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 homéopathique, mais j'ai l'impression que ça part un peu plus vers le fantastique que vers la science-fiction dans la troisième partie. Oui.
C'est-à-dire que votre personnage, donc, qui est riche, va effectivement financer plein de start-up scientifiques pour, en gros, ré réaliser pas forcément son rêve, mais ses idées qu'il a, ses idées, presque des idées fictionnelles qu'il a envie pour le futur.
Oui, voilà, c'est ça. Bah, ça, c'était le postulat de départ. Je voulais un personnage qui soit très riche. Non pas tant pour faire une réflexion sur l'argent et la célébrité, mais parce que je voulais confronter une conscience humaine à la fois très exaltée et en même temps très atrophiée à des possibles illimités. Du coup, ce moment à la fin où je lui fais dire je suis un capital risque vivant, il n'est plus que ça, il n'est plus qu'une machine à réaliser du possible. Et du coup, je cite justement. Dans cette troisième partie, je cite l'économiste Friedrich Hayek, qui dit que la seule façon d'estimer le capital d'une entreprise, c'est je crois, de dire tous les processus qu'elle est capable d'engendrer. Et du coup, voilà, d'entrepreneur, le personnage devient une sorte d'entreprise folle et devient une machine à réaliser des projets possibles autour d'un grand projet qui se dessine, dont je dévoile à peu près rien. C'est transhumaniste, c'est un peu singulariste, etc. J'en dis pas plus, mais voilà, je veux. Il tâtonne, en fait. Il est au seuil de quelque chose d'assez mystique dans son rapport à la science et à la technique par rapport à la théorie de l'information, mais il tâtonne et il aboutit à des choses un peu bâtardes, mais en même temps très compliquées. Donc effectivement, la fin est un peu baroque à ce niveau-là, oui.
Parce que vous m'avez parlé un peu des conditions de votre écriture, que vous aviez la chronologie réelle devant vous de ce personnage. Et j'ai l'impression qu'avec toute la fin, vous vous êtes emparé enfin vraiment complètement d'un personnage, que vous êtes affranchi sans doute des contraintes que vous étiez fixées dans votre écriture pour pouvoir suivre quand même la biographie de cet entrepreneur. Et ma question, du coup, c'est la question de la liberté dans votre écriture, et cette différence qu'il y a entre une grande partie de l'ouvrage où on suit cet entrepreneur pas à pas, et la fin, vous emparez vraiment d'un personnage, vous en faites quelque chose de très très fort. du coup. Est-ce que cette fin, c'est pas pour vous une possibilité d'enfin entrer en liberté avec ce personnage et d'exploser les contraintes puissantes qui existaient tout le long de l'écriture du livre?
D'un point de vue personnel, moi, je l'ai plus perdu à la fin et je l'avais vraiment intimement au début. Les scènes de l'enfance, j'étais vraiment en empathie avec lui parce que je lui ai prêté, en les exagérant, je lui ai prêté beaucoup d'événements fictifs de mon enfant, beaucoup d'événements réels de mon enfance. Et voilà, j'ai essayé dès le début, de lui attribuer une âme. Du coup, voilà, cette liberté, j'avais l'impression qu'il l'avait au début. Effectivement, il y a peut-être un problème structurel, je ne sais pas. Il disparaîtrait dans la deuxième partie, ou en tout cas, il ne devient plus qu'un entrepreneur, une sorte de machine assez géniale à faire de l'argent, mais dont la part humaine est largement restreinte. Par petits moments, par exemple, dans une traversée en bateau, où il se met à réfléchir à l'origine de sa fortune, etc. Par petits flashs comme ça, j'arrive quand même, par petits pas japonais, à avancer sur son âme. Et à la fin, effectivement, le moment où je le retrouve complètement, c'est le moment aussi où, d'une certaine façon, il s'effondre. Donc j'étais plus à l'aise, en fait, en tant que romancier, j'étais plus à l'aise avec la première partie, voire avec la deuxième qu'avec la troisième, où j'étais quand même j'étais face à un, comment dire, un objet littéraire, pas nouveau, mais bon, il n'y a aucune comparaison d'échelle, hein, je ne veux pas m'attribuer quelque chose dont je ne suis pas capable, mais c'est un personnage un peu à la Vautrin ou à la Charlus, quoi, une sorte de génie du mal, ou on ne sait pas quoi, quelque chose qui est un peu trop gros et un peu trop ingérable de façon littéraire pour pouvoir être le personnage principal. Et Vautrin comme Charlus apparaissent par courts flashs de très forte intensité, mais ni Balzac ni Proust ne les ont jamais suivis de façon linéaire. Donc voilà, j'avais cette espèce de grosse entité comme ça qui s'était développée et qui, voilà.
Est-ce pour ça que la fin est très rapide, très courte? Parce que dans cette fin, vous lancez beaucoup de très nombreuses idées, mais du coup, peut-être vous étiez moins à l'aise, vous aviez face à vous une sorte de monstre qui prenait trop de place, qui vous plaisait moins, du coup, et vous avez presque peut-être abrégé et rendu très courte toute cette partie sur la fin de la vie du personnage.
À la relecture, j'ai un peu abrégé les expériences. Par exemple, quand il fabrique un musée informatique, c'était un peu plus long, mais en fait, j'ai gardé l'essentiel, qui est l'interrogation de la possible existence de Dieu à travers les machines. Donc, du coup, effectivement, c'est assez fragmenté. Effectivement, ça va vite parce qu'il y a, en gros, il y a l'expérience Shannon de réallumer un câble au fond de la mer. Il y a l'expérience du musée. Et il y a l'expérience finale avec les abeilles. Donc voilà, et quelques autres choses, enfin, quelques investissements comme ça. Donc effectivement, on sent que le personnage est réellement au bout du parcours, mais on sent qu'il cherche quelque chose. Et à aucun moment, disons que je voulais pas non plus lui faire inventer ni l'élixir de longue vie, ni le truc définitif. Je voulais vraiment le montrer en train de tâtonner et en train vraiment de s'immerger, de rentrer dans la théorie de l'information, comme on rentrerait en religion. Du coup, voilà, je me suis autorisé ces différents tâtonnements, que je me les suis d'autant plus autorisé, en fait, que la théorie de l'information est connue pour être extrêmement transdisciplinaire et elle a été récupérée dans les années 70 dans strictement tous les domaines scientifiques, ce qui est assez fascinant. Ça s'est largement effondré d'ailleurs, mais à un moment, elle a été le paradigme commun à la biologie, à la physique quantique, à la théorie du codage, à l'écologie, à absolument tous les domaines. Donc voilà, il y avait cet effet aussi qui était recherché pour la fin, oui.
Alors, effet de la fin, effet après tout au long de votre fiction, puisque entre chaque partie est intercalée, donc entre chaque partie fictionnelle, il y a d'intercaler des textes non fictionnels, des textes informatifs sur la théorie de l'information. Ce que j'ai trouvé d'étonnant, c'est que la manière d'écrire vos parties fictionnelles et vos parties informatives, non fictionnelles, donc sur la théorie de l'information, cette manière d'écrire était la même. Un ton neutre, assez peu empathique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous utilisiez cette même manière d'écrire, ce même ton, qui moi justement m'a beaucoup plu, au contraire, c'est que j'ai trouvé ça vraiment fort, puissant.
Là, pour le coup, c'est un échec parce qu'il aurait fallu, de la même façon que je les ai mis en italique, il aurait fallu qu'elle se détache du texte. En gros, ce que j'ai essayé de faire, parce que j'ai un rapport un peu complexe au lyrisme, c'est d'enfermer et d'essayer de restreindre au maximum et d'étouffer l'élément lyrique, quitte à me permettre quelques montées au lyrisme, etc. Par contre, pour ces petites notules, mon intention de départ était de faire un truc qui ait à la fois une certaine valeur épistémologique ou au moins une certaine valeur en vulgarisation scientifique et qui tende en même temps le plus possible vers la poésie en prose. Chose auquel je crois assez, en fait, cette espèce de fusion de l'essai et de la poésie en prose qui vient probablement confusément d'un héritage... Enfin, je le relie à ça, je ne sais pas si c'est l'effet que ça fait, mais je le relie à l'héritage du romantisme allemand et de Novalis, etc. Et bon, voilà, j'ai peut-être... C'est des passages qui ont été très longs, parce que d'un point de vue didactique, bah, les sujets étaient assez compliqués, ce n'étaient pas des sujets que je maîtrisais probablement assez pour monter directement au lyrisme. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, dans ces passages. Que la science... En fait, voilà, à défaut que ce soit compréhensible, à défaut que ce soit réussi d'un point de vue scientifique, je voulais que ce soit des passages où la science était immédiatement poétique.
Et donc, cette même poésie en prose pour les textes explicatifs, informatifs, que les textes fictionnels.
Après, je me suis beaucoup moins posé la question de la poésie... En gros, enfin, pour le faire très simple, c'est un diagnostic que j'avais posé il y a quelques années, en fait je le trouve toujours valable, je trouve que le problème de la poésie en prose est un problème qui est fondamentalement pas réglé dans le roman français du XXe siècle, c'est encore plus vrai pour ces 20 dernières années, et très souvent on nous donne comme des romans des choses qui ne sont que des longs poèmes en prose, des choses qui sont magnifiques à lire, dont on ne lit rarement plus de 4 pages, parce que ça nous tombe littéralement des mains, parce qu'il n'y a pas cette... petit plus, cette petite impureté feuilletonesque du roman qui fait que la beauté ne suffit pas à faire un roman, mais le roman en plus, il faut qu'il y ait un certain rythme et un certain moment où on n'est pas dans le beau pur, mais où on est dans un beau un peu sale. Du coup, pour toutes les parties, à part ces petits moments où je m'autorise des moments de difficulté assez élevés, parce que je me rends compte par rapport aux lectures qu'il y a eu, aux lectures qu'on m'a rapportées, il y a des gens qui sautent ces passages, d'autres qui les trouvent trop compliqués. Mais bon, voilà, j'ai essayé le reste du temps d'abaisser un peu d'abaisser le péage pour entrer dans la littérature, de dire c'est pas parce que ça va être très écrit que ça va être moins bien. Du coup, j'ai essayé d'être simple, de faire des phrases pas compliquées et assez claires et assez peu alambiquées dans le courant du texte. Et bon. Un texte que je donne parfois comme exemple de ça, mais c'est Aden Arabi de Polizan, je trouve ça sublimissime. Par contre, c'est un des livres que j'ai eu le plus de mal à terminer, juste pour cette raison, parce que la charge poétique par page, je la trouve trop élevée. Donc voilà, le roman, c'est aussi faire ce choix, parfois volontairement, de se mettre un peu en deçà de la poésie, parce que c'est quand même, dans l'économie du récit, ça pose quand même un problème. Il y a un autre exemple que je trouve très réussi, c'est dans... Extension du domaine de la lutte, le premier roman de Houellebecq, et justement ça se passe en mer Rouge, là où se passe, je sais pas s'il y a un rapport, mais c'est là où se passe Aden Arabi. Il y a un poème en prose entre deux parties, soudain, après la passe de Babel, Mers, etc. C'est quelque chose de magnifique, mais juste avant c'est très prosaïque et très sec, juste après c'est très prosaïque et très sec, et l'impression que ça m'a donné, c'est comme si Houellebecq avait voulu faire un paratonnerre pour que la charge poétique se décharge à cet endroit et épargne un peu le reste du texte. Mais bon, je conçois que ce que je dis, il y a quelque chose de bizarre, je ne suis pas anti-poésie, mais il y a dans cette tension entre la prose et la poésie quand même quelque chose qui me semble important pour la littérature. Oui,
oui, et l'expression « économie du récit » que vous employez, effectivement, est vraiment à bon escient. Une économie de moyens, une neutralité au service du récit, mais quelque chose qui est très, très contrôlé. Et on voit d'ailleurs que c'est très contrôlé quand on lit ce chapitre 29, « La singularité française » signée de Xavier Missen, où là, effectivement, oui, on vous trouve peut-être plus lyrique avec certaines phrases qui peuvent paraître définitives. Parce qu'il y a dans votre tout au long de l'écriture de la théorie de l'information, et j'ai trouvé assez peu de phrases, on va dire, définitives, de phrases génériques et définitives qui assènent des sortes de vérités, alors que dans la singularité française, par exemple, il y a cette phrase « C'est la première fois qu'un État intervient d'aussi près dans l'épigénèse du cerveau humain ». Ça, c'est fort, Mais cette phrase-là, peut-être que dans le cœur du récit de la théorie de l'information, vous l'aurez supprimée, non?
Oui, bah c'est drôle que vous me parliez de ça, parce qu'il y a une phrase que j'ai failli supprimer et que j'ai gardée in extremis à la dernière lecture, parce que justement je trouvais que ça sentait un peu trop l'aphorisme. C'est dans les banlieues résidentielles compactes de la banlieue parisienne, les passions dominantes étaient la honte, la prudence et je ne sais plus quel est le troisième terme. Et bizarrement, elle a été relevée dans 3-4 articles et ça m'a un peu agacé. Mais en même temps, je dis bon, bah voilà, si les gens aiment, pourquoi pas. Mais ça m'a un peu agacé parce que je voulais pas. Je voulais, dans le récit principal, sous couvert d'encyclopédisme et de caractère informationnel continu du texte, je voulais être plus sceptique que ça, en fait. Donc ça m'a gêné, effectivement. Et j'ai un peu fait le choix de refuser l'aphorisme. Et effectivement, on m'a posé des questions, par exemple, sur le. Il y a une phrase où je note la concomitance de l'apparition des affiches pour le Front National et des affiches pour le Minitel Rose. Et on m'a posé plusieurs fois aussi la question quelle est la thèse ou, mais ouais, c'est génial, il y a une thèse. Mais en fait, j'y ai pas du tout pensé en l'écrivant. Pour moi, bah, bon, voilà, souvenir d'enfance, les deux événements arrivent en même temps. Et ça m'aurait gêné. Bah, en tant que romancier, ça m'aurait gêné d'en donner l'explication. Donc, bon, après, j'ai aussi ce côté agaçant. Hein. Je peux tartiner 2 pages et demie d'explications sur comment fonctionne Internet, etc. Mais fondamentalement, je me rends compte que j'ai pas trop envie, finalement, de donner des aphorismes et de donner des clés trop fermes. Parce que, enfin, grosso modo, je me suis rendu compte que j'évoluais dans un brouillard mental assez colossal et que le roman était plus pas tant une manière de lever ce brouillard mental que de. Comme moi, d'essayer d'en donner une représentation. Enfin, sur quasiment aucun des sujets sur lesquels je me prononce dans le roman, mais sur des sujets vraiment de base, hein, pour ou contre le progrès technique, enfin, des choses aussi sommaires que ça, je ne suis pas capable de donner de réponse définitive. Du coup, l'outil romanesque me permettait de mettre en scène toutes ces oppositions et toutes ces incertitudes et de leur donner... Enfin, faire un truc comme un figé. Les choses sont gardées dans une certaine incertitude.
Eh bien, merci beaucoup, Aurélien Bélanger, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée à vous.
Très bonne soirée.